Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Quels sont nos outils préférés? Quels sont nos setups hardware et software? Quel hardware ou software ne pourrions-nous pas nous passer? Bref, c'est quoi nos petits outils ou nos petits accessoires préférés? C'est un sujet un peu léger, mais un sujet qui intéressera sûrement les freelances. Et on m'a dit parmi les podcasteurs que ça pouvait aussi intéresser tout le monde. Donc on va en parler. Justement, pour en parler avec moi ce soir, j'ai René. Bonsoir René.
Bonsoir à toutes et tous.
J'ai Nicolas. Bonsoir Nicolas.
Salut mes petits DevOps.
Et enfin j'ai Damir.
Salutations.
Bienvenue sur Radio DevOps, la balado-diffusion des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti!
Bienvenue à toi, cher compagnon, dans cet épisode de Radio DevOps, ton émission de vulgarisation cloud et DevOps mensuelle. Oui, je me suis raté, j'ai annoncé les podcasteurs avant le jingle, mais c'est pas grave, on ne coupera pas. De toute façon, ça fait longtemps qu'on ne coupe plus les épisodes, sauf en cas de problème. Alors aujourd'hui, tu l'auras compris, on va parler de matos, mais avant de parler de matos, on va faire une petite présentation de nous quatre, de c'est quoi nos profils, pour que tu puisses bien t'identifier ou pas à un de nous. Alors, qui veut commencer? Alors, je vais prendre dans l'ordre de mon écran. C'est René qui arrive en premier.
Aujourd'hui, je fais plus du développement, donc développeur, sachant que ça n'a pas forcément changé par rapport à avant quand je faisais plus des activités DevOps. Bah, je suis en salarié et chez Red Hat pour le coup. Et
est-ce que voilà. T'es plutôt remote physique aussi
c'est je suis 100% remote.
Très bien, merci. Ensuite, on a Damir.
Oui, du coup, pour moi, je suis CDI 100% remote dans une entreprise lyonnaise. Je fais en majorité du SRE. Donc, globalement, même si je suis pas développeur, j'écris quand même beaucoup de code. En tout cas, j'ai une activité qui s'en rapproche. Beaucoup de temps sur des YAML, sur de la CI, sur des choses joyeuses comme ça. Ce qui fait qu'au niveau de mes besoins, ça se ressent aussi.
Nicolas, à toi la parole.
Eh bien, moi, je suis CDI au 4/5e dans une boîte qui développe de l'open source. Je suis en full remote et je gère toute l'infrastructure. Donc, ça va du DevOps à du développement de back-end spécifique. Et je suis aussi freelance à côté, donc pour faire du DevOps, gestion d'infrastructure également.
Et enfin, moi c'est Christophe et je fais beaucoup trop de choses, mais je suis principalement CTO de Frogit, qui est une usine logicielle, donc dans ce poste de CTO, et comme on est très peu nombreux, on est 6 avec 3 freelances, je crois, qui nous aident. Je fais aussi beaucoup, j'occupe aussi beaucoup le poste de product manager et lead tech. Donc, je fais encore du code d'infrastructure, puisque je fais encore du Terraform, du Ansible et beaucoup de CI. Mais je fais aussi à côté de ça du montage, etc. Enfin, voilà, tu me suis, tu sais pourquoi. Et je suis 100% remote aussi, puisque notre collectif, puisque c'est un collectif de freelance qui édite des SaaS aussi, on est 100% remote. Alors, on va commencer par parler de nos petites machines et de nos hard préférés, et on va commencer par le mobilier, parce qu'avant de travailler, il faut bien poser nos trucs quelque part. Damir, je t'en prie, commence.
Oui, alors de mon côté, moi j'ai changé pas mal de setup et je suis arrivé sur quelque chose de plutôt fixe et plutôt agréable au niveau du mobilier. Donc moi je suis assez grand, donc j'avais toujours un peu frustré des tailles par défaut, et on va dire des espaces par défaut, et j'ai vite remarqué qu'en fait un truc important dans sa position de travail, c'était quand même de pouvoir adapter la hauteur de ses différents accessoires. Donc j'ai rapidement opté pour un bureau assis debout qui est franchement top. Alors je faut pas je passe pas non plus de 5 heures par jour debout, mais j'arrive assez facilement à faire de 1 à 2 heures par jour. Plus un truc très con, c'est qu'au-delà d'être debout, ça permet aussi de l'adapter à la bonne hauteur de travail et pas forcément un bureau très bas ou très haut. Donc ça c'est plutôt cool. Et en plus de ça, sur le bureau, bah, tous mes périphériques, en passant de l'écran au PC, au micro, à la caméra, tout est sur vérin pour les plus lourds ou des bras articulés pour les plus légers, ce qui me permet d'adapter, vraiment de moduler en fonction de mon usage, tout à la bonne hauteur. Et on va, je vais vous avouer que c'est quand même quelque chose qui peut paraître encombrant, mais qui est ultra agréable au quotidien.
Et ben merci Damien, je vais prendre la suite parce que moi aussi j'envisage l'achat d'un bureau assis debout. J'ai eu l'occasion de travailler debout plusieurs fois et c'est vraiment bien. Et cette année je vais justement me prendre un bureau en fabrication française. Donc c'est Willy Walt, c'est une société française qui fait ça, qui fait du semi-artisanal en bois et en métal. Le bureau assis debout a une particularité, c'est qu'il n'est pas électrique, il est monté sur vérin hydraulique. Donc je pense qu'il va être hyper durable, parce que à mon avis, vu que c'est du bois massif et des vérins hydrauliques, je suis pas sûr d'avoir des problèmes avec ça. J'ai aussi un siège ergonomique depuis 2015, et à chaque fois que j'en parle, on me dit mais il coûte un bras ton siège. C'est un Aeron d'Herman Miller. Alors Herman Miller, malheureusement, c'est une société américaine, j'ai pas trouvé d'équivalent européen. Mais ce siège-là est fabriqué depuis très très longtemps, ce qui assure en fait, enfin, Herman Miller nous assure un service après-vente des pièces pendant au moins 15 ans. Donc comme là, le siège, il va avoir 7 ans, 8 ans, j'espère bien que ça va durer, puisqu'il est là depuis longtemps. Et surtout, j'ai jamais eu un siège aussi confortable de ma vie, et je regrette absolument pas son achat. C'est l'un des premiers trucs que j'ai acheté en tant que freelance. Nicolas, je te passe la parole.
Oui, alors moi aussi j'ai un bureau assis debout. Par contre, faites très attention au moment où vous allez l'acheter. Il y a deux sens pour les vérins. Il y a les vérins avec les joints par le dessus et par le dessous. Et chacun a ses avantages et ses inconvénients. L'inconvénient des bureaux IKEA avec le petit piston en bas et le grand en haut, c'est que quand vous allez descendre votre bureau, s'il y a un obstacle du style un caisson ou une poubelle, le vérin du haut va rester coincé dessus et vous allez ranger votre bureau en deux secondes puisqu'il y a une partie qui va continuer à descendre et le bureau va se retrouver à 45 et vous avez rangé votre bureau. Et dans l'autre cas, vous avez la poussière qui va rentrer dedans. Donc faites bien attention à comment vous allez utiliser votre bureau et quel est le risque le plus important pour vous. Et après, niveau chaise, moi qui ai pas mal de problèmes de dos, j'ai eu une chaise IKEA Pro pendant à peu près 5 ans. Et là, je suis passé à Noble Chair. Donc c'était un investissement un peu moins important que celui de Christophe. Mais une fois que je suis dedans, je suis très confortable. Mais essayez de voir si vous pouvez essayer la chaise pour voir si elle vous convient. Moi, je l'avais pas fait et j'ai regretté mon achat pendant 2 mois parce que l'assise était très très dure et maintenant c'est bon, le siège c'est fait. Mais lésinez pas sur le siège, vous allez rester assis toute votre semaine dessus et vous allez vous bousiller le dos si vous prenez une chaise en plastique.
Oui, je vais dans ton sens parce que avant de m'acheter cette chaise-là, j'avais de temps en temps et assez régulièrement mal au dos avec les chaises qui étaient fournies par les sociétés, alors que là, j'ai plus jamais mal au dos, je suis toujours très bien assis, toujours très droit. Et je précise aussi que j'ai tendance à acheter des trucs très chers, mais en étant moi-même freelance, c'est moi qui paye tout, et comme je récupère la TVA, l'amortissement, tout ça, c'est beaucoup plus facile que n'importe quel salarié, j'avoue.
Petite info, moi j'ai pas précisé ma chaise, j'ai une chaise ergonomique REC aussi qui est pas trop mal et qui est plutôt confortable. Et j'ajoute un point, on a précisé rapidement, mais essayez quand même de les tester, notamment si comme moi vous êtes assez grand et assez costaud, c'est important qu'elles soient adaptées à votre morphologie aussi. Ne serait-ce que pour la taille, moi j'ai eu des chaises qui n'arrivaient pas au bon endroit dans le dos en fait, et du coup c'est juste pas agréable.
René, je vois que t'as rien mis sur cette partie-là, donc on va passer à la section des machines. Alors.
Non, justement, c'est pour ça que moi je voulais faire un peu cet épisode. C'est justement pour avoir un petit peu. Je pense que c'est hyper important justement, et c'est pas des investissements à négliger. parce que sur le long terme, ça peut poser des maladies professionnelles si on a de l'équipement pas terrible. Alors aujourd'hui, je manque un peu de place et j'ai pas un équipement mobilier super, et justement, ça m'intéressait un peu de savoir ce que vous utilisiez.
Oui, et je précise aussi que si vous êtes dans une entreprise et que vous êtes en full remote, en théorie, votre entreprise devrait vous aider à payer, votre bureau ne devrait pas être à votre charge, en partie. En tout cas, nous, on dote tous nos salariés d'une enveloppe pour qu'ils puissent acheter des choses s'il leur manque des choses. C'est important de demander là, parce que peut-être que vos employeurs ou employeuses n'y ont peut-être pas pensé. Alors, côté machine, Damir, pareil, tu vas ouvrir le bal. C'est quoi tes petites machines? Qu'est-ce que tu conseilles et pourquoi?
Alors, moi, je vais commencer par l'écran, parce que c'est le plus important pour moi, vu que c'est la chose qu'on regarde toute la journée. Moi, j'ai choisi au final de partir après des années en double écran. Je suis parti sur un écran ultra wide, du coup, Xiaomi 34 pouces, incurvé, qui marche plutôt très bien. Pourquoi je suis parti sur un simple écran? En fait, à force de faire du double écran, même si théoriquement j'ai le deuxième écran du PC portable, mais globalement, ça me permet de me focus vraiment sur un endroit. L'écran, aujourd'hui, les écrans 34 pouces en ultra-wide sont assez larges pour globalement afficher deux fenêtres côte à côte sans qu'on soit gêné. Donc mon workflow actuellement, il est très lié aussi à ce que j'utilise. J'utilise du coup Gnome, mais on y reviendra un peu plus tard. Et j'ai deux espaces de travail, et je vais plutôt multiplier les espaces de travail que multiplier en fait les écrans. Comme ça, j'ai des points de focus à chaque fois et ça me permet de pas me disperser. Globalement, je travaille en permanence avec deux workspaces. Un premier workspace, du coup, où j'ai mon écran qui est divisé en deux, avec d'un côté le chat professionnel, de l'autre côté avec mon navigateur web. Et j'ai un deuxième espace de travail dans lequel j'ai mon terminal avec tout mon tooling pour faire mon taf et que j'utilise au quotidien. Mais ça, c'est pareil, on y reviendra un peu plus tard. Autrement, dernier avantage, c'est que ce Xiaomi, en fait, il a beaucoup de prises. Et moi, j'ai trois PC sur mon bureau. J'ai deux PC perso, un fixe pour jouer et un portable pour mon blog, etc. Et un PC portable pour le travail, qui est un Asus ZenBook qui marche très bien. J'ai pas forcément de gros besoins en termes de PC vu mon travail. Donc, moi, ça me va, mais il est plutôt cool. Tout ça pour dire que l'écran a aussi l'avantage d'avoir beaucoup de sorties vidéo. Donc, je peux laisser en permanence les trois PC branchés et switcher automatiquement au besoin.
Je vais prendre la suite alors parce que j'ai moi aussi un écran 34 pouces incurvé 21/9. Moi, c'est un Asus ROG. Il est peut-être un peu plus ancien que le tien. C'est vraiment hyper confortable, en effet, de pas avoir deux écrans. En plus, c'est plus facile à orienter, un seul écran. Comme toi, j'ai toujours beaucoup de... Enfin, j'ai toujours régulièrement deux fenêtres, voire parfois trois. Ou quatre, quand je fais des lives, j'ai plein de petites fenêtres à droite à gauche. Donc c'est super intéressant, je vais continuer. Alors j'ai deux PC, j'ai un PC fixe. Moi j'ai tendance à avoir une philosophie pour acheter des PC fixes, c'est que j'achète des PC fixes ultra puissants, qui vont durer dans le temps. De manière générale, je change mes PC fixes tous les 10 ou 12 ans. Donc là j'ai un 12 cœurs 32 Go de RAM, et comme c'est un PC fixe monté, je pourrais ajouter de la RAM si jamais j'ai besoin, mais pour l'instant j'ai pas besoin. Enfin, 12 Go de RAM, ça me suffit. Alors pourquoi j'ai pris autant de cœurs et autant de RAM? C'est parce que au tout début de mon activité de freelance, je faisais beaucoup d'infra as code et je faisais beaucoup de virtualisation sur mon PC. Aujourd'hui je fais du montage vidéo, donc ça me sert aussi. Et en déplacement, j'ai un Dell XPS 13 Plus, et je suis fidèle au Dell XPS depuis le début. Ça fait 2015, j'ai eu trois Dell XPS. Ces Dell-là, je les ai pas achetés. Ils sont maintenant séparés, ils ont été répartis dans la société, et donc il y a d'autres personnes qui ont mes anciens Dell. On a une politique de... on fait passer les PC jusqu'à ce qu'ils soient plus utilisables. Pareil, c'est un 12 cœurs 32 Go de RAM. Et j'espère à l'avenir n'avoir qu'un seul PC et un seul PC portable. Mais on verra, je croise les doigts. Nicolas, à toi la parole.
Alors moi, je vais être le seul maquet chez Apple, et ceux qui regardent la vidéo, ils voient que j'ai plein de boîtes Apple chez moi. Parce que ça fait 15 ans que je suis sur Mac. Alors moi, aujourd'hui, j'ai un MacBook Pro 14 pouces. Pour moi, le plus important, c'est la taille de l'écran, parce que ça va conditionner pas mal de choses, dont le poids et l'encombrement, puisque c'est vrai que je l'ai pas dit, mais je suis très nomade, hein, je travaille pas toujours de chez moi, je travaille pas toujours de Rennes, donc pouvoir voyager dans le train facilement avec, c'est important, pouvoir prendre la machine à bout de bras entre deux salles, c'est vraiment important. Et pour moi, c'est la machine qui conjugue à la fois la puissance et la portabilité. Après, je vais pas rentrer dans le débat, les Mac c'est mieux, machin, c'est chacun sa religion. Moi, c'est ce qui me correspond. Je suis dessus depuis pas mal d'années et j'ai pas envie de passer sur d'autres systèmes. J'ai tout essayé, mais c'est avec les Mac que je me sens mieux. Ensuite, effectivement, j'ai un écran externe, bon, c'est un 27 pouces, je crois, en 3K, parce que c'est pas de la 4K, mais c'est un petit peu en dessous. Et comme je suis pas mal Apple, j'ai aussi un iPhone. Alors, je précise l'iPhone parce qu'il me sert de modem en nomadisme et ça s'interconnecte très facilement, très rapidement. Et au niveau matériel, je suis un petit peu comme Christophe, j'essaye de prendre le maximum des options, parce que l'inconvénient des machines Apple, c'est qu'on peut plus modifier le hardware, pour plein de raisons, et du coup, bah là, j'ai pris la machine avec le plus de RAM possible, pour pouvoir la garder le plus longtemps possible. Et du coup, il reste René, qui a deux fois moins de RAM que moi, le pauvre.
Alors moi j'ai rien de notable, par contre j'avais une petite question pour toi Nicolas, c'est est-ce que tu envisages de passer au M1, M2 ?
J'y suis déjà, et alors c'est très très bien pour l'autonomie, j'ai quasiment une journée sans me recharger, c'est super pratique. Par contre, pour la virtualisation, c'est un enfer. Docker, ça marche très bien, mais pour avoir des machines virtuelles type VMware, VirtualBox, j'ai pas encore réussi à faire quelque chose de fonctionnel. Alors, je précise le besoin, c'est pour faire du Vagrant et compagnie. Et pour l'instant, j'ai pas encore réussi à trouver. Donc, c'est des super machines, sauf pour ça.
Voilà, mais moi, j'ai rien de particulier. Voilà, j'ai un laptop fourni par mon employeur qui est un T14S Lenovo avec pas mal de RAM, 32 gigs, parce que effectivement on a besoin pour OpenStack on a besoin d'avoir pas mal de RAM pour pouvoir essayer de démarrer l'applicatif en local.
Eh ben merci, on va pouvoir passer aux périphériques. C'est quoi nos petits périphériques préférés? Mais encore une fois Damir, tu vas ouvrir le bal.
Je suis gâté aujourd'hui. Je vais mettre, pas dans l'ordre que j'ai mis sur les notes, mais globalement, pour compléter l'écran, j'ai utilisé il y a quelques temps, en fait, j'avais beaucoup de fatigue visuelle, surtout en hiver, j'étais fatigué, etc. J'ai fini par mettre une screen bar il y a quelques mois, et au final, je regrette pas. Alors, la BenQ est très chère pour ce que c'est, on va pas se mentir. Les Xiaomi sont beaucoup moins chers, et il y a d'autres alternatives. Moi, j'ai pris celle-ci, parce que ayant un écran incurvé assez grand, j'avais un peu peur pour les autres, mais globalement, ça me permet vraiment de baisser ma fatigue visuelle. J'ai beaucoup moins de migraines et de choses comme ça. Je pensais que c'était un peu du bullshit. Alors, il y a peut-être un peu de psychologie aussi, mais en tout cas, dans mon côté, j'ai rien à redire là-dessus. Et avec tout ça dans ma panoplie sur mon bureau, j'ai un hub USB qui me permet, comme je le disais, 3 PC. J'ai dit que je les branchais tous sur le même écran, mais j'ai qu'une paire de claviers souris, hein. Vous imaginez pas que j'ai 3 claviers souris à un côté de l'autre, ça me prendrait beaucoup trop de place. J'ai un switch USB qui me permet de switcher entre les différents périphériques. Le soir, quand j'ai fini de taffer, je repasse mon bureau en assis, je switch de périphérique et je suis sur mon PC perso. Donc ça, c'est quand même plutôt cool. Il y a plein de modèles qui existent. Moi, j'avais pris un sur Amazon parce que j'en trouvais pas d'autres. Et du coup, pour terminer pour moi, j'ai aussi du coup des YubiKey, comme on a déjà parlé dans plusieurs épisodes. Pour tout ce qui est double authentification, c'est quelque chose qui est génial. Toujours par deux, pour en enregistrer deux, une de backup que vous cachez dans un endroit et une que vous gardez sur vous tous les jours, histoire que si vous la perdez, par exemple avec mon trousseau de clé, une fois mon trousseau de clé, il est tombé sous l'ascenseur, j'aurais été bien emmerdé pour finir de travailler. Donc j'ai pris ma clé de backup. Et YubiKey, pourquoi ? Parce qu'elles font aussi PGP Card, en tout cas ces versions-là, c'est-à-dire que je m'en sers pour stocker ma clé privée PGP, qui me sert pour déverrouiller mes mots de passe et plein de choses. Voilà pour moi.
Alors j'ai une petite question à te poser, parce que on est en train d'en parler chez nous. Est-ce que tu as testé ou est-ce que tu as eu écho des équivalents libres des YubiKey ? Parce que je pense que YubiKey, c'est pas libre, ou le hardware n'est pas libre.
J'ai eu des échos de, alors je sais plus les marques, dans ma boîte, on en a essayé 2-3. La qualité est clairement pas la même. YubiKey, c'est beaucoup plus durable dans le temps. C'est quand même quelque chose qui est très simple, hein. YubiKey, il n'y a pas de cache ou de truc qui se déboîte, c'est une clé brute. Donc c'est beaucoup moins durable, et moi j'ai pas trouvé en fait d'alternatives qui font de la double os et du coup de la du PGP card, et pour moi c'est juste éliminatoire en fait.
J'en parlerai à Thomas justement. René, t'as noté que t'avais YubiKey, est-ce que tu veux en parler avant que je prenne la parole?
Non, j'ai pas forcément grand chose à dire sur YubiKey, je pense que je l'utilise pas à 100% de ses capacités. Parce que c'est un outil qui, voilà, j'ai pas eu trop le temps de gratter tout ce qu'on pouvait faire avec, mais c'est vrai que c'est pratique, ouais.
Nicolas, tu viens de remonter un truc dans les notes.
Oui, parce que, alors, moi, je suis peut-être un cas encore plus cas particulier, c'est que des YubiKey, j'en ai au moins 3. Donc, comme le dit Damir, j'en ai une de backup, et mon trousseau de clés au quotidien, c'est une USB-A pour pouvoir me connecter sur des vieilles machines, une USB-C pour pouvoir me brancher sur des machines récentes, et celle qui est USB-C est compatible NFC pour pouvoir me connecter avec mon iPhone, parce que le jour où vous allez vous retrouver coincé à devoir relancer un truc avec votre OneDeck, regarder un truc dans GitHub, etc., si vous n'avez pas votre clé, vous êtes obligé de rentrer chez vous, et là, vous allez apprécier d'avoir votre YubiKey dans la poche. Donc, mon conseil, c'est, si vous avez un doute, commencez par acheter une basique pour voir un petit peu comment ça marche, et après, quand vous achetez votre deuxième, regardez bien exactement ce dont vous avez besoin. Il y en a des toutes petites qui peuvent rester en fichier en permanence dans la machine. J'ai plutôt tendance à déconseiller ça, parce que c'est l'intérêt, c'est d'avoir un facteur qui vous suit en permanence. Et il y en a qui fonctionnent très très bien en porte-clés. Et, voilà.
Oui, c'est ce que j'étais en train de me dire. Quitte à laisser ta YubiKey connectée à ton PC, autant que ce soit ton PC ta double authentification. Ah ben,
Pour moi, c'est vraiment un troisième facteur que j'ai en permanence sur moi. Donc, ceux qui sont sur YouTube voient mes deux YubiKey avec ma clé GPG Legacy qui me sert de porte-clés. Et l'intérêt, c'est que si jamais mon ordinateur crame, je ne perds pas mon troisième facteur. C'est pas rattaché à mon téléphone, donc si je me fais voler mon téléphone, j'ai toujours mon troisième facteur, et ainsi de suite.
Je vais préciser, j'étais parfaitement d'accord avec toi. En fait, je disais que du coup, ça servait à rien d'acheter une YubiKey pour la laisser sur l'ordinateur, autant que ce soit l'ordinateur. C'est comme autant ça que je voulais le dire, en fait. Du coup, je vais prendre la suite. Comme Damir, j'ai une BenQ Screenbar Halo. Donc la Halo, elle a un halo derrière l'écran, ce qui réduit la fatigue visuelle. C'est vrai que je suis d'accord avec Damir aussi, c'est cher pour ce que c'est. J'en ferai potentiellement une vidéo un jour sur YouTube pour donner mon avis après plusieurs mois d'utilisation, parce que je l'ai depuis l'été. Et là, comme on vient de passer la période de nuit très tôt, j'ai pu travailler avec, et donc j'ai pu m'en apercevoir de comment ça marchait. Côté périphérique, moi j'ai un truc que j'ai conseillé d'ailleurs il y a pas longtemps à mon collègue qui cherchait une nouvelle souris. Donc moi j'ai une souris MX Master Anywhere en déplacement. Honnêtement, la série Logitech MX Master, c'est du super bon matos, ça coûte cher, puisque la souris Anywhere ça coûte 80€, alors qu'une souris de base ça peut coûter 10€. Mais honnêtement, elle est hyper solide, à tel point qu'en fait mon ancienne souris, je l'ai donnée à une de mes alternantes et je m'en suis racheté une, et celle que j'ai donnée avait déjà 3 ans, elle était pratiquement comme neuve. Et j'ai en plus, pour ceux qui sont sur YouTube, une MX verticale en dehors du déplacement, parce qu'elle est un peu grosse pour me déplacer avec. En plus de ça, donc pour ranger la MX Master et tous les câbles, puisque je me déplace avec plein de trucs, j'ai plusieurs sacoches tech et j'ai cherché longtemps des marques durables et donc j'ai trouvé une marque qui est une marque européenne qui s'appelle Thule. Thule, ils font des sacs à dos et autres. Donc c'est les Thule Subterra Power Shuttle. Il y a 3 tailles. Et j'en ai 2 tailles et je les aime à tel point que je vais m'acheter la 3e taille. J'en ai une pour transporter mon matos de cours et de talk, c'est-à-dire qu'il y a tout ce qu'il faut pour donner un cours avec les micros, le truc pour passer les diapos et les petits câbles USB qui vont bien. J'en ai une pour ranger le matos audio quand je me déplace avec mon micro et autres dont on parlera tout à l'heure. Et j'envisage de m'en acheter une juste pour mettre les câbles dont j'ai besoin. Pour l'instant, je n'en ai pas encore besoin, mais le jour où j'en aurai besoin, je m'en achèterai une. Et enfin, j'ai un As Synology. Alors, en préparant l'émission, on a dit qu'on parlait pas forcément d'audio-vidéo. Alors, en fait, j'ai 2 NAS Synology, mais je m'en suis racheté un. C'est un Synology DS1821+. C'est un serveur 8 baies. Donc, pour l'instant, il y a 3 disques. Et 21 Tera, il y a donc du coup vous pouvez faire le compte, il reste encore plein de place. L'objectif de ce NAS, c'est première chose, c'est pouvoir sauvegarder tout ce qui est production audio vidéo des compagnons, mais surtout on va s'en servir pour s'en faire un serveur de backup externe Borg, puisqu'on a on commence à être un peu serré sur nos serveurs en ligne, et comme nous on a une double quand on a de l'infogérance et les SAS, quand on fait nos sauvegardes, on a 2 types de sauvegardes, un sur stockage d'objets et un sur serveur Borg. Et ben là, plutôt que d'aller prendre un serveur dans le cloud encore plus gros, on va plutôt se prendre des NAS dans les endroits séparés physiquement, à Saint-Étienne et à Rennes, et on va dupliquer nos NAS, et en plus nos NAS, ils sont eux-mêmes sauvegardés sur du stockage d'objets. Donc on va tout sauvegarder dessus, en plus de stockage d'objets. Et ça, c'est, à mon avis, ça va nous sauver la vie. Ça va être pas mal. René, je te laisse la parole.
Oui, bah moi, je plussois la souris verticale. J'ai pas forcément une souris de grande marque, mais je reconnais que y a un confort. Et pareil, je pense que sur le long terme, ça peut éviter certaines maladies professionnelles au niveau des poignets. Le truc assez cool, c'est qu'avec le ThinkPad de chez Lenovo, il y a une docking qui est je trouve assez pratique. Parce que, pour connecter, alors je pense que c'est pas la seule marque qui fait ça, mais voilà, il y a un seul câble USB-C et il y a tout qui passe dedans, c'est quand même assez cool. Et, juste entre parenthèses, je suis plutôt HP pour les imprimantes, scanners, etc. Parce que ça vient sous Linux, il y a une intégration avec HP-Lib qui est vraiment, je trouve, super cool et ça marche très bien. Voilà.
Moi, j'ai viré mon imprimante, mais chez Brovers, puisque j'ai une Brovers, ça marche aussi assez bien.
En général, sans troll, les imprimantes, maintenant, ça marche assez bien sous Linux, même mieux que sous Windows, ce qui est assez ironique quand on connaît l'historique.
Grâce à Apple.
Eh ben Nicolas, t'as la parole, vas-y, garde-la.
Ouais, alors moi de mon côté, alors j'ai ni clavier ni souris externe parce que ça me permet d'être en permanence avec exactement les mêmes périphériques. Donc le clavier, alors j'ai une particularité, c'est que je prends des claviers QWERTY depuis 10 ans, ce qui me permet de taper plus vite. Quand on code, on a tous les caractères spéciaux qui sont directement accessibles. Et pour tous ceux qui me diraient que les câbles de Mac sont pourris, eh ben ceux QWERTY sont des QWERTY totalement standards. Donc c'est parfait pour ça. Ce qui me permet d'ailleurs de bosser à côté. J'ai un petit laptop Lenovo qui me permet de faire du Linux et du Windows. Il est en QWERTY aussi et je cherche pas les touches en passant de l'un à l'autre. Et le trackpad de mon Mac est vraiment très très bien. Donc ça me permet d'avoir exactement la même configuration partout et d'être toujours très opérationnel et de pas perdre de temps avec ça. Ensuite, très important, c'est des disques de sauvegarde. Donc, j'en ai deux. J'en ai un disque dur USB qui me permet de faire des sauvegardes normales pour pouvoir restaurer plus rapidement, quel que soit l'endroit où je suis, puisque, encore une fois, je suis nomade. Et j'en ai un réseau qui est chez moi qui me permet d'avoir une deuxième machine potentiellement séparée de mon ordinateur. Si mon appartement brûle, je perds que ma sauvegarde. Si je me fais voler mon ordinateur et mon disque dur USB, j'ai au moins une sauvegarde qui reste chez moi. René a parlé d'un dock Ethernet. Ça, c'est peut-être un des composants, enfin des périphériques sur lesquels il faut vraiment s'attarder au moment où on l'achète, parce que ça coûte assez cher aussi. J'ai fait l'erreur d'en acheter dans les 100 € et au final, j'en ai acheté 3. Donc, acheter directement un au-dessus de 300 €. Parce que, comme le dit René, avoir qu'un seul câble USB pour faire passer à la fois l'énergie et à la fois tous vos écrans, tous vos périphériques, c'est super pratique. Et moi, je me suis retrouvé avec des docks USB qui chauffaient quand je faisais de l'Ethernet. Donc, j'avais rajouté des radiateurs, mais bon, vous avez peut-être autre chose à faire que de bricoler des trucs comme ça. Et surtout, vous allez le garder très longtemps. Donc, c'est peut-être un des investissements vraiment importants à voir. Ensuite, c'est pour tous ceux qui font du nomadisme. Donc, je le disais, j'utilise mon iPhone pour l'accès Internet. Mais en solution de secours ou quand je télétravaille ailleurs vraiment pendant longtemps, j'ai un routeur 4G Wi-Fi. Donc, j'ai un Netgear, un truc comme ça. J'ai plusieurs abonnements téléphoniques au cas où un des abonnements ne capte pas là où je suis. Donc, j'ai du Bouygues et de l'Orange pour simplifier. Très important, pour ranger tout mon foutoir de câbles, j'ai une sacoche de câbles. Alors, j'ai investi dans du Peak Design. Alors, c'est du matériel qui est très très cher, c'est plutôt à destination des gens qui font de la photo, de la vidéo, mais le matos est vraiment super bien, c'est solide, je crois que c'est même garanti à vie. Et dedans, j'ai tous mes câbles et j'ai quelques sacs en nylon en plus, ce qui permet d'avoir d'autres trucs un petit peu alternatifs. Je me balade toujours avec des couverts pour éviter de prendre des couverts en plastique. Ça, c'est dans des sacs en nylon très très fins, très légers, donc c'est super pratique.
J'ai failli prendre la Peak Design aussi, je t'interromps, mais parce que quand j'étais en phase de recherche, je me demandais...
Elle est vraiment top. Alors, c'est gros, c'est lourd, mais dedans, j'ai énormément de trucs. Donc, pour tous ceux qui seront sur YouTube, ils verront. J'ai plein de trucs. J'ai même mis un multimètre et des câbles Ethernet. Donc, ça me permet de vraiment répondre à pas mal de trucs. Bon, elle est chère, mais encore une fois, c'est quelque chose qu'on va garder plusieurs années. Donc, je pense que ça vaut le coup. Ensuite, j'ai pris un chargeur USB de 100 watts parce que celui livré par défaut, il est pas mal, mais il est un petit peu encombrant et surtout, il n'a qu'une seule prise USB. Donc là, j'ai deux prises USB-C, ce qui me permet de recharger deux trucs en même temps. Et comme ça fait 100 watts, c'est largement assez pour recharger à la fois mon ordinateur et autre chose. Je me balade toujours avec une tablette qui peut me servir d'écran externe aussi. Toujours aussi une batterie externe. Alors moi, j'en ai plusieurs parce que c'est toujours galère d'avoir le téléphone qui a plus de batterie, le routeur 4G qui a plus de batterie, etc. Donc, j'en ai toujours deux sur moi. Et forcément, il faut un bon sac à dos pour mettre tout ça. Donc, encore une fois, du Peak Design. Or là, c'était un très gros investissement parce que le sac à dos, il est très très cher. Mais encore une fois, il est super solide et a priori garanti à vie puisque j'ai usé pas mal de sacs à dos et j'en ai un petit peu marre de devoir les changer tous les 2 ans et de foutre les anciens à la poubelle. Et là, si celui-là, il a des fermetures éclair, mais alors c'est génial parce qu'il s'ouvre sur les deux côtés, on peut le mettre sur le côté pour sortir des trucs. Et il a un emplacement pour mettre à la fois une tablette et un ordinateur portable. Et franchement, c'est génial. Je regrette vraiment pas.
Petite question là-dessus, du coup, par rapport, parce que c'est vrai que tu disais, c'est plus pour l'audiovisuel normalement. Au niveau des emplacements, ça marche quand même bien pour un usage plus, on va dire PC.
Alors, ça dépend de ce que tu mets dedans. Par exemple, un truc qui est souvent reproché, c'est qu'il n'y a pas d'emplacement pour mettre des documents. Donc je dois me balader avec une planche d'étiquette. Je le mets avec l'ordinateur portable, mais c'est pas super pratique. Par contre, moi qui me balade, je suis très nomade, donc j'essaye de prendre qu'un seul sac à chaque fois. Donc quand je vais à Paris, j'ai ma trousse de toilette dedans, j'ai mes affaires de rechange dedans. Et comme on peut déplacer les compartiments qui normalement sont faits pour mettre les flashs, les objectifs, des choses comme ça, moi je mets mes fringues dedans. Donc ce qui permet d'avoir mes caleçons qui tombent au milieu de la salle de réunion alors que je voulais sortir mon iPad par exemple.
Je vais rajouter un truc dans cette section, mais j'y ai pas pensé, mais comme tout à l'heure tu as parlé de tes abonnements internet, moi j'ai changé d'abonnement internet récemment et je suis passé chez Free Pro. Parce que j'étais chez Free avant, alors j'étais content, mais sauf que j'ai eu plusieurs coupures et quand on est en remote tout le temps, quand on est coupé d'internet, nous on peut plus travailler. Donc je suis passé chez Free Pro et ils ont une offre qui est vraiment assez intéressante. Alors c'est réservé pour les pros, faut avoir un numéro de Siret. Mais si votre boîte veut vous payer l'abonnement, c'est possible. L'avantage, c'est que déjà, c'est une offre fibre qui est un peu plus boostée que l'offre grand public, mais surtout, il y a un backup 4G, ce qui fait que si, par mégarde, la fibre tombe, il y a automatiquement le backup 4G qui prend le relais, et donc vous n'êtes pas coupé d'internet, puisque j'ai plusieurs fois été coupé, et j'ai pas vu de problème. C'est un poil plus cher. Mais honnêtement, ça vaut le prix qu'on paye. Il y a pas de box télé avec, hein. Si vous voulez regarder quelque chose, mais moi j'ai pas la télé.
Pour info, du coup, ça elle existe aussi chez Orange et même dans les versions particulières. Et c'est inclus. Moi, je sais qu'elle s'est activée une fois en 3 ans, parce qu'il y a eu qu'une coupure en 3 ans. Mais c'est inclus aussi. Donc, je pense que dans le pro, c'est inclus. Si c'est inclus dans le forfait de base, il y a pas de raison que ça le soit pas.
Je pense aussi, quand on télétravaille, c'est hyper important, pour nous en tout cas, de pas être coupé d'Internet. Pour moi, c'était le truc qui m'a fait passer chez FreePro.
C'est l'abonnement que j'ai chez Orange, où j'ai un modem 4G qui m'est fourni avec. Et par défaut, il y a 5 gigas, un truc comme ça. Et là, c'est la semaine dernière, j'ai eu une demi-journée de coupure fibre. Et en fait, ils m'ont automatiquement envoyé un SMS. On vous met à 200 gigas pour vous et toute votre famille. Donnez les numéros de téléphone de vos autres abonnements Orange et on met tout le monde à 200 gigas.
Ouais, c'est vrai que c'est plutôt bien fait, ça. Pour le coup, c'est cool.
C'est Orange, ils sont très chers, mais j'ai pris cet abonnement-là justement pour ça. Et j'ai eu une demi-journée de coupure, ils m'ont remboursé 10 euros. Donc, je vais peut-être aller couper des fibres dans le quartier plus souvent.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Eh ben nickel, on va passer à la section audio-vidéo. Alors, moi j'en ai pas mal de trucs parce que comme on fait du podcast, mais on va parler de ce qui est important en remote. Et Damir, tu vas pas ouvrir le bal, du coup je vais laisser la parole à René cette fois.
Ah oui. Pour moi l'achat que je regrette pas pour le coup, c'est un casque Jabra Evolve 75. Truc assez cool, c'est qu'il marche avec un dongle sur le PC et il peut aussi se connecter en Bluetooth. Donc ça permet d'avoir le PC connecté et un mobile aussi les deux connectés en même temps sur le casque. Et le dongle a un peu plus de portée, etc. Donc ça c'est pas mal. Et franchement, pour avoir je pense que c'est aussi un cadeau pour les gens qui vont vous écouter, parce que sans que ce soit du matériel peut-être hyper haut de gamme, ça le micro est quand même assez directif, donc même quand il y a un peu du bruit aux alentours, ça passe pas tout, le son est bon, je regrette pas cet achat, et même si c'est un peu cher, je pense que c'est plutôt bien d'avoir un beau casque, surtout quand on fait pas mal de visio. Et en webcam, j'ai une Logitech C920, dont je suis plutôt satisfait. C'est pareil, c'est pas du très haut de gamme, mais ça marche bien et impeccable sous Linux.
Allez, je prends la suite. J'ai le même Jabra. J'ai pas le même Jabra, j'ai la version juste en dessous, la Jabra Evolve 65MS Duo, qui marche en câble ou en Bluetooth. On a pris ça pour tout le monde chez nous, parce qu'on avait marre de galérer, et du coup ça marche super bien. Jabra, d'ailleurs Nicolas aussi a un Jabra, tout à l'heure il vous en parlera, mais c'est vraiment une super marque, hein. Moi avant j'avais une petite oreillette Bluetooth qui a 7 ans maintenant, elle marche encore. Bon, c'était une petite oreillette Jabra, du coup celle-là là, ce micro-casque Jabra, je pense qu'il va durer encore longtemps. Et en webcam, j'ai changé ma webcam. Au début, j'avais commencé avec une vieille webcam qui avait un problème d'autofocus sur les premières vidéos de la chaîne, on le voit. J'ai pris une Logitech Brio 4K, plutôt que de faire comme tous les youtubeurs et de m'acheter un boîtier qui coûte la peau des fesses. J'ai pris une webcam qui coûte la peau des fesses, mais qui coûte carrément moins cher. Donc elle fait de la 4K, elle est très très bien, l'image elle est superbe. Il y a un micro dedans, mais je l'utilise jamais, puisque j'ai ce micro-là, mais je vous en parlerai pas. Et j'ai ce casque-là, parce que le Jabra, j'utilise en déplacement ou alors pour le connecter sur mon téléphone. Mais quand je suis au bureau, j'utilise ce micro-là, qui est un casque DT70 Pro 80 ohms, qui est le même que celui d'Amir et qui est d'un confortable. C'est absolument essentiel. Je l'aime tellement que j'en ai pris un aussi à mon alternante qui fait du montage vidéo-audio. Et du coup, c'est hyper confortable pour justement quand on le garde longtemps sur la tête, parce que moi j'ai des acouphènes. Et du coup, quand j'ai pris ce casque, c'était vraiment agréable par rapport aux anciens casques que j'avais. Damir, est-ce que tu veux prendre la suite, puisque je viens de parler du casque que tu as?
Oui. Du coup, pour ce casque-là, il y a, comme tu dis, rien à dire niveau confort, qualité, etc. On le sent pas sur la journée. En fait, ce casque, on le voit beaucoup, notamment à la radio et chez beaucoup de streamers, parce que c'est un casque qu'on appelle un casque de monitoring ou un casque de studio. C'est fait pour rester longtemps sur la tête et avoir un son plutôt correct. Et il est vraiment une qualité-prix assez incroyable. Il coûte une centaine d'euros et il est assez durable, très simple. Efficace, par contre c'est pas sans fil pour ceux qui le veulent, mais vraiment c'est une valeur sûre, on va dire. Mais si vous cherchez un casque et celui-ci vous plaît pas, je vous conseille vraiment, si vous avez à faire beaucoup de remote comme moi ou des longues sessions vidéo, de choisir un casque entre guillemets de monitoring ou de studio pour ça, c'est souvent ce qu'il y a de plus confortable. J'ai complété ça du coup avec une webcam. Moi j'ai une Razer Kiyo qui est bien parce qu'elle a un anneau lumineux, donc là même si là bon ma pièce permet pas d'avoir une lumière correcte, ça aide toujours un petit peu. Et pour le coup, en audio, j'ai un micro M-Audio Uber Mic qui est vraiment pas mal et qui est pareil, coûte une centaine d'euros, il marche plutôt bien. Ça peut paraître con, mais si vous faites beaucoup de visio, comme moi, on fait beaucoup de peering dans mon entreprise, avoir la webcam, c'est pas le plus important. J'ai envie de dire, si vous avez la webcam du PC, en vrai, elle va très bien. Mais choisissez vraiment un bon micro et un casque qui est pas désagréable sur des longues sessions. C'est quand même game changer. Et le micro, c'est pour vos collègues, avoir un bon micro qui soit clair, qui est pas d'écho, et comme ça, c'est vraiment quelque chose qui va changer votre expérience du remote et aider aussi vos collègues pour le coup.
Nicolas, tu veux prendre la suite?
Ouais, alors moi du coup j'ai pas de webcam puisqu'elle est intégrée à mon ordinateur. Sinon, comme le disait Christophe, je vais vous parler de Jabra. Alors moi j'ai une pieuvre comme ça, donc j'ai fait un petit support en 3D parce que ça me permet de le mettre en hauteur. Et alors dans une boîte précédente, j'en ai fait acheter des comme ça à toute l'équipe parce que on est en main libre, on n'a rien sur la tête, donc quand on est toute la journée en audio conf, on n'a pas les oreilles qui chauffent. Et ça, c'est un confort exceptionnel. Il y a une annulation d'écho automatique. Les micros sont juste à côté du haut-parleur. Il n'y a jamais d'écho. Et pour moi, avoir du bruit ambiant, des choses comme ça, je supporte pas. À la fin de la journée, j'ai la tête comme une pastèque. Donc l'audio, c'est vraiment important. Pensez à vos collègues, prenez du bon son. Si pour vous, c'est important d'avoir un bon casque, bah, imaginez vos collègues, c'est aussi important pour eux que vous ayez un bon micro. Après, je suis pas toujours chez moi, donc j'ai deux types de casques. Donc j'ai les AirPods, c'est les petits trucs d'Apple. J'ai acheté la version basique sans annulation de bruit, mais ça me permet de le connecter rapidement, facilement à tous mes périphériques Apple. Et sinon, j'ai un casque annulation de bruit. Pour ceux qui sont sur YouTube, c'est celui que j'ai sur les oreilles là. C'est le Sony XM4 parce que c'était celui qui faisait référence à ce moment-là. Mais j'avais pu bêta-tester le Bose QC45. C'est vraiment des super casques. Ce qu'il y a d'important, c'est de pouvoir les supporter pendant longtemps. Donc quand je vais à Paris, quand il y a trop de bruit dans le train, c'est ce qui me permet de m'isoler tranquillement et c'est vraiment super efficace. Donc si vous bougez beaucoup, regardez pour investir dans un casque comme ça. Mais encore une fois, mettez-y le prix une bonne fois pour toutes et vous le regretterez jamais.
Merci Nicolas. De manière globale, je pense que on pourra dire mettez-y le prix, vous ne regrettez jamais. Prenez du temps aussi pour choisir votre matos, c'est important. Moi, je sais que quand j'ai choisi mes nouvelles pochettes tech, j'ai mis longtemps parce que en effet, comme tu disais tout à l'heure, tu parlais Peak Design, c'est un sacré budget les pochettes tech. Et si on veut des trucs qui durent longtemps et pas les changer tous les 3 ans, c'est important.
Et un dernier truc sur l'audio, si vous avez la possibilité d'aller acheter dans un magasin physique comme la Fnac, Darty, Boulanger, ce que vous voulez, essayez le casque parce que l'audio, c'est quelque chose d'extrêmement personnel. Moi, j'ai pris le Sony, mais je regrette, j'aurais dû rester sur le Bose. J'aime beaucoup les Jabra aussi. J'ai des petits Elite 65T en backup. Mais les sonorités sont vraiment différentes. Et si vous allez aussi écouter un petit peu de musique avec, des choses comme ça, c'est important que la sonorité vous plaise. Donc, et surtout, on n'a pas tous les mêmes morphologies et un casque peut faire mal à une personne et pas à une autre. Et c'est dommage si vous achetez un casque à 300-400 euros qui vous fait mal aux oreilles au bout de 5 minutes, quoi.
Eh ben, on va passer à la suite. Mais avant d'entamer la section soft, je rappelle à notre cher auditeur qui nous écoute que ce podcast, il est en licence libre. Ça veut dire qu'il peut l'utiliser, il peut le modifier, il peut le partager. La seule chose qu'on te demande, c'est de nous créditer quand tu fais ça, puisque la licence, elle est en dessous de chaque podcast et de chaque vidéo YouTube. Tu verras, c'est une CC BY SA. Il y a même le lien pour aller lire la licence. Et on va parler du soft. On va parler de tout ce qu'on a mis sur nos petites machines. Je vais commencer pour parler du système. Et moi, mon système et le système qu'on utilise chez l'Hydra, c'est de l'Ubuntu. On impose l'Ubuntu sur les machines de travail. Pourquoi l'Ubuntu? C'est parce qu'il y a une communauté qui est assez énorme, que ça marche régulièrement avec beaucoup de soft, notamment nos Dell XPS, parce qu'on est beaucoup à avoir des Dell XPS, ils sont fournis avec Ubuntu, en tout cas les développeurs édition le sont, et moi je suis sur Ubuntu Budgies. Budgies, c'est un environnement graphique qui est plus léger que Gnome, dont va te parler mes chers collègues, et donc ça permet de réduire l'empreinte mémoire de ton environnement graphique. Et Damir, je vais te laisser te parler de ton système.
Oui, moi de mon côté, depuis quelques années, je suis toujours sur Debian testing pour mon PC. Tout est bootstrap avec Ansible. Donc j'ai un Ansible qui est sur un repo GitHub que je pourrais mettre dans les commentaires si ça vous intéresse, mais je bootstrap toutes mes configs, tous les installs logiciels avec ça, ce qui fait que si j'ai un gros souci de PC ou quelque chose, globalement, j'ai juste à, j'ai pas peur en fait de perdre du temps à réinstaller. Ça peut être fait très rapidement et ça me permet aussi de récupérer des modifs entre mon PC pro sous Linux et mon PC portable sous Linux. C'est-à-dire que je peux commit, on va dire, mes petits changements pour les choses que j'ai, les outils que j'ai en commun, et ça se pop tout seul. Et ça me permet aussi de maintenir à jour, mine de rien, pas mal de paquets sur des systèmes de packaging différents. Plus facilement le matin quand je vais me préparer mon café, je fais un make upgrade et il me lance tout ça, il me met à jour tous mes petits trucs et je suis tranquille. Et globalement pour testing, j'ai pas de, les paquets sont assez frais, surtout j'ai jamais eu de problème de stabilité. Je crois que j'ai eu un bug en 5 ans.
Tu fais bien. En fait, j'ai oublié un truc très important. Nous, on est sur des LTS Ubuntu, des long time support. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas envie de s'embêter, comme toi, à maintenir des choses. Et donc, voilà, on est sur des LTS. Et je te relaisse la parole.
Oui, ça m'embête pas. Je l'ai automatisé. SRE. Il y a un problème, on l'automatise, c'est réglé. Non, et du coup, j'ai fait ça parce que sinon les paquets sont beaucoup trop vieux et dans mon métier, c'est juste une galère. Très souvent, je finissais par backport 90% de ma conf, donc ça n'avait plus aucun sens. Et je suis sous GNOME, comme je disais au début, parce que mon workflow est ultra adapté à GNOME. GNOME, sa proposition, on va dire, de workflow, je la trouve juste géniale. Moi, même s'il y a des choix qui sont critiquables, c'est quand même super fluide quand on est à l'utilisation, s'il y a une logique qui est très bonne. Et j'en reparlerai un peu tout à l'heure, on peut faire des améliorations sur GNOME, notamment dans le moteur de recherche, de méta-recherche. On peut ajouter des catégories. Par exemple, moi, quand je recherche si je recherche Google dans ma recherche perso ou, je sais pas, Vault, il va me proposer aussi, du coup, de copier mon mot de passe automatiquement dans mon presse-papier, pour que je puisse le coller. Donc c'est des petites choses comme ça qui sont super agréables et totalement extensibles avec les softs qu'on peut utiliser à gauche à droite. Et GNOME ces derniers temps a fait beaucoup d'efforts en termes d'accessibilité, en termes de perf et en termes d'empreinte mémoire. Dans les versions 30, c'était des fois un peu chiant. Aujourd'hui, c'est quand même beaucoup mieux. J'ai vraiment zéro souci avec ça. Même sur une machine qui avait 4Go de RAM, j'avais zéro souci.
Qui prend la suite? J'ai qui à la suite? Vas-y.
Je peux prendre la suite. Donc moi j'ai longtemps été débianiste, mais il y a très longtemps. Et à un moment j'ai basculé sur Fedora. Donc aujourd'hui sur Fedora 37 avec GNOME. Il y a deux raisons, on va dire. Une des raisons, c'est que à un moment professionnellement, j'utilisais beaucoup d'environnement Red Hat. Du coup, d'être sur Fedora, ça permettait d'anticiper un peu les changements qui arrivaient sur les distributions Red Hat Enterprise. Et puis, je trouve que c'est un bon compromis en termes de, voilà, les paquets sont relativement à jour, voire pas mal à jour. Et donc voilà, je suis assez satisfait de ça. J'y suis depuis Fedora Core 4. Donc voilà, puis je upgrade régulièrement et j'ai jamais vraiment eu de problème. Je suis resté sur GNOME. À un moment, j'avais envisagé peut-être de passer sur un Tiling Windows Manager qui gère les fenêtres. Jarry i3. Mais non, je suis resté sur GNOME, mais j'utilise une petite extension qui s'appelle PopOS. Qui est fait par donc les gens qui font PopOS, qui s'appelle PopShell pardon, et qui permet de faire un semblant de Tiling Windows Manager. C'est pas aussi bien je pense qu'un vrai, mais ça fait le job. Voilà. Et voilà, rien de plus.
T'as été tenté ou pas juste par Silverblue, je crois que ça s'appelle comme ça.
Rappelle-moi ce que c'est, parce que
c'est la version immutable OS de Fedora. J'avais hésité à y aller.
Non, j'ai jamais. Okay. Je suis assez content avec Fedora, j'ai mes habitudes depuis très longtemps et voilà. Donc pour l'instant, j'ai pas trop bougé.
Je pense qu'on pourra en parler des OS immuables, mais à titre personnel, je pense que c'est pas forcément adapté aux stations de travail. Mais je pense qu'il faudrait qu'on en parle, qu'on fasse un sujet de Radio DevOps là-dessus pour parler de toutes ces choses-là. Nicolas, tu es le seul qui n'est pas sous Linux et du coup on a personne sous Windows, donc Explique-nous pourquoi tu es sur macOS.
Alors, j'ai migré il y a très longtemps, suite à des collègues qui avaient quitté l'entreprise et laissé leur machine. Et j'ai été très curieux, j'ai testé, et bah, depuis, j'en suis pas parti. Pourquoi ? Parce que ça permet d'... Alors, à l'époque, il y avait pas trop de LibreOffice qui était une alternative vraiment fiable aux outils Excel, Word, etc. Donc, ça me permettait d'avoir un pack Office sur ma machine et en même temps d'avoir quelque chose de fonctionnel type Unix avec les outils GNU dans un terminal. Parce que je vous rassure, je passe 90% de ma journée dans un terminal. Alors maintenant, plus en monochrome, mais avec des couleurs dans tous les sens. On en a déjà parlé dans d'autres podcasts. Et pourquoi macOS ? Parce que c'est aujourd'hui, c'est ce qui m'est pour moi le plus stable. C'est-à-dire que je réinstalle pas ma machine régulièrement comme je pouvais le faire avec Windows ou avec les différents Linux que j'ai essayé. Mais ça reste quand même un OS qui est hyper customisable. Et comme le disait Damir, c'est vrai que je l'avais pas noté à l'origine, mais j'ai aussi un manuel de réinstallation de mon OS que je mets à jour régulièrement, que je stocke dans un truc de prise de notes en ligne. Donc aujourd'hui c'est Notion, ça a été Evernote. Peu importe, l'idée c'est que si ma machine crame, j'en récupère une nouvelle et je suis capable de la réinstaller en quelques heures au lieu de plusieurs jours. Quand je dis quelques heures, c'est pleinement opérationnel, ISO par rapport au moment où ça avait cramé. J'ai restauré tous mes fichiers, j'ai restauré tous mes outils, toutes mes configs et ainsi de suite. Bon, c'est pas mal aidé avec pas mal d'outils dans le cloud aussi. Mais au moins, j'ai une machine ISO fonctionnelle par rapport à avant. Voilà.
Alors, j'ai fait un petit changement dans les notes de l'épisode. Dans les notes de l'épisode, excusez-moi, j'ai regroupé deux parties. On va parler de bureautique et navigateur. Et Damir, t'es encore le premier, décidément. Je pense que t'as été le premier à remplir tous les trucs, en fait.
Non, pourtant j'étais le deuxième de mémoire. Je crois que René était plus rapide que moi.
Eh ben, écoute, tu es le premier. On va mettre René juste après toi.
Bah oui. Du coup, de mon côté, pour compléter de ça, alors comme je disais, GNOME, je rebondis juste en même temps, je fais le lien. GNOME, il n'y a pas beaucoup de Tiling Manager. Globalement, je déporte mon Tiling Manager un peu poussé sur mon terminal, en fait. J'utilise, qu'on verra plus tard, un système pour pouvoir multiplier les fenêtres là-dedans. Donc, j'ai pas de gros besoins de ce côté-là. Donc, GNOME me suffit amplement. Il peut diviser en deux. Ça me va parfaitement. Et un de mes gros composants de mon workflow, ça va être Firefox, donc mon navigateur. Pas la version extended support par défaut sur Debian, mais la version classique qui est maintenue à jour plus régulièrement pour notamment éviter d'avoir trop de retard dans les versions. Et marche plutôt bien. J'ai 2-3 extensions dans le top. Dans le top, j'ai le fameux uBlock, j'ai Smart HTTPS qui est quand même assez cool. J'ai NoScript qui est un peu pénalisant au début, mais après qui est très cool. Et j'ai aussi pas mal de services en ligne que j'utilise. Alors je vais faire une petite compile, je vais pas passer 10 ans dessus, peut-être juste sur ceux que les gens connaissent pas. J'ai Outline qui est un système en globalement de wiki qui ressemble énormément à Notion, mais qui peut être self-hosté et qui a un gros pan en moins. Il a pas tous les systèmes de tableaux croisés, dynamiques et des choses comme ça. Mais moi je fais beaucoup de prises de notes et de la référence. Donc Outline là-dessus, il est juste génial et il marche très bien de mon côté. J'ai Antidote qui me permet de faire des corrections de fautes, étant dyslexique, ça m'aide quand même un peu au quotidien. J'ai Exalidro, il me semble, c'est comme ça, qui me permet de faire des schémas à main levée assez facilement, et ça c'est plutôt pratique quand je veux expliquer quelque chose, je suis quelqu'un de très visuel dans la méthode de fonctionnement. Un Nextcloud pour backup quand j'ai des fichiers ou des choses comme ça entre deux PC ou des choses importantes. Un Etherpad et un Passbin aussi qu'on a dans notre société pour du coup faire des petites notes, partager des choses. Ça, c'est quand même assez pratique. Un Fresh RSS pour voir mes flux RSS. Pareil, tout ça, self-host. Donc voilà. Je précise juste qu'Antidote, c'est assez puissant, mais c'est payant et c'est privé comme solution.
Bah, je vais juste me dire un petit peu les, voilà, les choses qui sont un peu particulières pour moi. Ben, moi, j'utilise majoritairement Firefox le plus possible, sauf si vraiment je suis obligé de faire autrement. Et avec une petite extension qui s'appelle Vimium, qui permet de piloter, en fait, son Firefox au clavier avec des raccourcis qui ressemblent à Vim. J'utilise Gramalect, qui est un logiciel libre de, justement, correction, un peu un pendant antidote, correcteur grammatical, etc., qui est plutôt pas mal. Et voilà, depuis très longtemps, j'ai toujours un petit moniteur qui est historique, qui est Gcrelm, pour voir un petit peu le statut de ma machine et quand ça chauffe ou pas en termes de CPU. Et voilà, rien de vraiment particulier à ce niveau-là.
Moi, de mon côté, du coup, j'utilise pas mal de messagerie instantanée. Donc, j'ai Rambox pour en rassembler quelques-unes, dont quelques Mattermost, dont un commun avec Damir, mais il vient jamais me parler. Plusieurs Slack et plusieurs Discord. Donc, c'est pour ça que j'ai une machine avec 64 Go de RAM, parce que ça doit représenter à peu près la moitié de son utilisation. J'utilise Todoist plus un autre truc pour faire du suivi de tâches et de temps. Alors Todoist plus Time. Et par contre, très particulier, j'utilise plusieurs navigateurs. Donc, j'utilise Chrome plus les extensions Ghostory pour enlever la pub. Donc, fuck with past parce que j'aime pas qu'on m'empêche de copier-coller. Et tab suspender parce que j'ai toujours 400 onglets en permanence, voire plus en ce moment. Donc ça, c'est pour toute ma navigation quotidienne puisque de toute façon, je suis déjà suivi par Google et compagnie, donc j'en ai fait mon deuil. Par contre, pour tous les trucs vraiment importants, j'utilise Firefox, donc pour toutes les consoles d'administration des différents providers cloud. Et j'ai, comme Damir, l'extension NoScript qui me permet de désactiver les scripts pour savoir où est-ce que je me balade et ainsi de suite, envoyer à Google, donc ça dégage. Et j'utilise aussi Foxy Proxy, qui est un truc très pratique qui permet de configurer un proxy à la volée. Et c'est super pratique. Et j'utilise un troisième navigateur, c'est Firefox Dev. Donc là, c'est quand je veux me mettre dans la peau d'un nouvel utilisateur, je le démarre. J'ai un Firefox entièrement vide et vous comprendrez après pourquoi. J'ai Foxy Proxy de configurer et j'ai une extension qui permet de vider complètement tout le cache historique, qui me permet d'avoir un Firefox tout frais à chaque fois que j'en ai besoin. Donc ça me permet de me connecter régulièrement sur des sites avec de tester la réauthentification, etc. J'utilise aussi Antidote comme Damir. Par contre, je sais pas si toi tu l'as acheté aussi en anglais, mais moi j'ai acheté la version française anglais, c'est super bien.
Oui.
Des fois, quand je suis un petit peu fatigué et que je veux traduire rapidement, j'utilise DeepL et j'ai pris la version pro parce que j'ai pas envie d'envoyer tout ce sur quoi je travaille à une boîte privée et puis qu'elle puisse l'utiliser, etc. Et j'utilise aussi un système de bookmarks en ligne. Donc j'ai pris un logiciel open source qui s'appelle Charlie, qui me permet d'avoir tous mes bookmarks en ligne. Et si mes bookmarks vous intéressent, je crois que c'est bookmarks.lodes.net. La plupart sont publics, mais bon, c'est ce qui me permet d'avoir moins d'onglets. Tous les 6 mois, je fais une passe sur tous mes onglets pour en mettre une partie dans Charlie. Voilà.
Juste, je me permets juste de rebondir, parce que j'ai oublié l'addon que j'utilise sûrement le plus, en pensant que c'était de base dans Firefox, mais ça ne l'y est pas. C'est Firefox Container, qui permet d'isoler en fait des contextes dans Firefox. Je m'en sers beaucoup pour déjà isoler mes comptes pro, des comptes perso sur un même PC, mais je m'en sers aussi surtout pour faire du debug ou me connecter à différents comptes clients qui sont sur une même console. Par exemple, OVH, je peux me connecter à 3 comptes en parallèle sans souci. Donc voilà.
Vas-y.
Nicolas. Je note le truc, j'y avais pas pensé à ça, parce que j'utilise beaucoup les consoles OVH dans un Firefox, mais j'avais pas pensé qu'on pouvait en ouvrir plusieurs en parallèle grâce au conteneur. Et c'est aussi pour ça que j'ai plein de navigateurs différents, c'est que des fois j'ai besoin d'ouvrir plusieurs comptes en même temps. Mais je vais noter l'histoire des conteneurs.
Merci. Ça tombe bien, j'allais en parler. Alors moi, je suis historiquement sur Chromium, qui est la version libre de Chrome, et je suis en train de passer sur Firefox, mais j'abandonnerai jamais Chromium, parce que malheureusement, Firefox a un tout petit problème avec le WebRTC et avec les visios, notamment avec l'outil qu'on utilise pour enregistrer le podcast et d'autres visios qu'on utilise. Alors, en tout cas, j'ai jamais réussi à avoir quelqu'un sous Firefox qui pouvait partager son écran du premier coup sur Jitsi. Je sais pas pourquoi, ça me déprime. Sur Firefox, on a aussi multi-account container qui nous permet justement d'avoir plusieurs identités. C'est hyper pratique quand je fais des tutos ou autres pour montrer ça. Chez nous, on a tout un tas d'outils parce qu'en plus, on infogère des outils pour nos clients, mais on a aussi un Nextcloud puisque nous, on a notre deuxième SaaS, il est basé sur du Nextcloud. Notre Nextcloud, c'est vraiment le cœur de notre système d'information. Chez nous, on partage tout dessus, que ce soit nos factures, devis, etc., mais aussi nos notes. Et donc pour ça, on utilise plusieurs choses. Donc LibreOffice pour toute la partie Office, avec Grammarlect aussi que j'utilise. Et pour la partie notes en Markdown, nous on utilise Zettler, qui est un outil libre. Qui tourne sur les machines, mais c'est pas en ligne pour le coup, mais comme c'est synchronisé avec Nextcloud, on n'a pas trop de problèmes. Pourquoi on a choisi Zettler? On en a essayé des tonnes et des tonnes, et on a choisi Zettler parce que c'est le plus WYSIWYG des éditeurs Markdown, et comme on travaille avec des personnes qui sont pas forcément des techs, le début pour se mettre à Markdown, c'est un peu compliqué, et donc Zettler permet de faire ça. Il y a aussi en plus la possibilité de faire des liens bidirectionnels dans les notes, et ça c'est vachement bien pour pouvoir naviguer d'une note à l'autre sans utiliser des liens hypertextes qui se cassent en fait en passant sur d'autres outils. Ça c'est assez classique dans les éditeurs, notamment ça marche avec Obsidian qui est pas une version libre. Pour les marque-pages, j'utilise Wallobag, qui est une alternative à Charlie. Hein. J'étais sur aussi, tu as cité Rombox, sauf qu'en fait je trouvais qu'il mangeait toute la RAM de mon PC. Et on est passé sur Ferdium maintenant, et ce genre d'outil, si vous connaissez pas, c'est génial, parce que en gros, moi j'y mets tous mes outils de communication. Je navigue sur mon navigateur et je mets tous mes outils de communication, donc tous les chats, les Mattermost, j'y reviendrai après, le forum des compagnons, notre outil de ticketing. Je mets tout ça là-dessus et quand j'ai pas envie d'être dérangé, je quitte l'application et puis voilà, c'est fini. Et évidemment, on utilise Frogit parce qu'on a GitLab et Mattermost qui est devenu le cœur de notre SI, parce que comme on est tous en remote, on a besoin de discuter régulièrement. Voilà, grosso modo, y en a d'autres, mais on peut pas passer notre temps à les citer. Nicolas?
Je vais rebondir sur le Nextcloud. Alors, bien entendu, j'en ai mis un dans ma boîte pour qu'on puisse se partager les fichiers plutôt que de s'envoyer des gros fichiers par mail. Et j'ai aussi un compte Dropbox Pro parce que j'y mets aussi tous mes e-books, ce qui me permet de à la fois les sauvegarder et de les avoir en nomadisme, parce que quand je suis coincé dans le train, j'aime bien lire des bouquins en faisant un petit peu de code.
Alors je suis curieux, je vais questionner ça. Pourquoi est-ce que tu le mets pas sur Nextcloud du coup?
Parce que ça me permet de pas l'héberger moi-même. C'est l'intérêt de Dropbox, c'est aussi qu'il y a plein d'applications qui sont connectées avec. Mmh. Et du coup, ça me permet de sauvegarder ces applications sur Dropbox. Je sais, c'est un service américain, etc. Mais c'est un service américain que je paye, donc j'ai pas une utilisation freemium où c'est moi le produit.
Ouais, mais ça m'étonnait parce que comme tu avais un Nextcloud, je trouvais ça bizarre, parce que c'est vrai que moi, depuis que j'ai Nextcloud, j'ai abandonné complètement Dropbox, j'utilise plus.
Alors le Dropbox est totalement perso, là où le Nextcloud est totalement pro.
Ok. On va passer à la partie code. Et c'est quoi qui nous plaît le plus dans les outils pour coder? Et René, tu vas ouvrir le bal.
Waouh. Alors, majoritairement, j'utilise Git. J'utilise donc principalement en terminal. Après, j'utilise quand même GitK, qui est une interface graphique, parce que pour faire certaines recherches, parfois, ça peut être sympa. Mais c'est vraiment dans des bus plutôt de consultation. J'utilise pas mal le... Donc, c'est une commande de Git qui est Git Merge Tool, mais c'est configuré avec... je suis utilisateur de NeoVim. Et du coup, ça me permet vraiment de, pour gérer les conflits, c'est plutôt pas mal avec des vues multiples sur le local, le remote, gérer les conflits. Au niveau, donc je l'ai déjà dit, j'utilise GNOME Terminal classique avec pas mal de tabs. De temps en temps, j'utilise soit TMUX, soit Zeli. Pour faire du multiplexage de terminal si j'ai besoin, mais globalement aujourd'hui je travaille pas beaucoup en local, donc j'ai beaucoup moins besoin de ça que autrefois. Je suis utilisateur de Bash, j'ai pas basculé sur forcément d'autres shells, et je complémente avec quelques outils, notamment Atwin, qui permet d'avoir l'historisation en fait de toutes les commandes dans une base, et ensuite de partager éventuellement l'historique des commandes entre différentes machines. J'utilise Z, qui permet de sauter dans un répertoire ou dans les répertoires qu'on utilise le plus souvent. J'utilise beaucoup, j'ai remplacé grep par ripgrep, parce que c'est beaucoup plus efficace en termes de vitesse, surtout pour chercher dans des grosses bases de code, et FD qui remplace Find aussi pour les recherches sur les fichiers, pareil parce que c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace. Moi je suis de l'école de, j'essaye d'adapter vraiment mon éditeur de texte un peu finement, et vraiment comme je le souhaite. Donc j'utilise NeoVim. Et pour pas trop m'embêter avec une installation de beaucoup de plugins, etc., je pars sur une espèce de distribution qui s'appelle AstroNVim, donc qui ramène, les plugins les plus courants pour la complétion, un choix de plugins, un peu des plugins les plus efficaces dans leur domaine. Ça marche très bien, le copier-coller est impeccable, super bien géré entre NeoVim et puis... Et mon OS. J'ajoute quelques plugins comme Hop qui permet de se déplacer rapidement sur Own pour faciliter l'encadrement de par des guillemets, des doubles quotes, des parenthèses, etc. d'un texte. Conflict Marker pour gérer les conflits et Trailing Whitespace pour virer tous les whitespace. Je suis un peu de l'école, j'essaye d'économiser un peu mes frappes pour essayer de me déplacer rapidement. C'est pour ça que j'utilise beaucoup NeoVim, puis je l'utilise depuis longtemps. Et donc, j'ai l'habitude d'utiliser ça. Et puis aujourd'hui, avec l'intégration du LSP, j'ai la complétion sur les différents langages. Donc, je ressens pas forcément le besoin d'aller vers des IDE qui sont beaucoup plus lourds et, à mon sens, plus lents. Voilà. C'est un choix. Et je vous laisse la main à Damir.
Je vais continuer en parlant notamment aussi de NeoVim. Donc moi, j'utilise NeoVim aussi depuis quelques temps maintenant. J'étais sur Vim avant, mais je suis passé sur NeoVim pour des questions de... Déjà parce qu'il y a l'UA qui est quand même beaucoup mieux pour la configuration. Il y a eu le LSP de base qui s'est intégré. Ça marchait sur Vim, mais il fallait rajouter beaucoup de plugins, etc. Globalement, je vais pas non plus récapituler toutes les raisons. J'ai fait un article dessus qui sera en commentaire, en description, je veux dire, de l'épisode. Mais globalement, NeoVim, ça marche très bien. Moi, je l'ai configuré de base en partant de zéro, en mettant juste 2-3 plugins. Et c'est plutôt cool. Comme le disait René, c'est aujourd'hui un outil qui reste quand même très moderne quand on met les bons plugins. Et il n'y a pas de manque par rapport à un VS Code. Après, Ça reste un outil modal, moi c'est ce que j'aime, mais ça plaira pas à tout le monde, et ça pour moi c'est important de signaler. Je complète ça avec Zellige, comme je disais, vu que j'ai pas de Tiling Manager au niveau poussé, au niveau de mon OS, bah moi je passe tout par Zellige. Maintenant j'étais sur Temux longtemps, mais j'ai migré il y a quelques semaines, et franchement il y a rien à redire, c'est très bien. Bon, ça manque un peu, je trouve, de, disons que la personnalisation de choses un peu simples, juste si on veut changer le, je sais pas, mettre l'heure ou la date dans un coin, c'est un peu tout de suite, il faut sortir des gros moyens. Mais ça marche ultra bien, c'est rapide, c'est flexible, ça a plein de fonctionnalités qui sont super intéressantes, notamment des fenêtres au premier plan, entre guillemets, il y a plusieurs plans de fenêtres qu'on peut déplacer, etc. Donc c'est vraiment génial. Pareil, j'ai fait un article, donc du coup je rentre pas dans les détails pour pas trop couper le truc. Il sera en description si ça vous intéresse. Et au niveau du shell, je suis sur ZSH de base. Pourquoi ZSH? Que globalement, les systèmes de complétion automatique, etc., sont plutôt puissants et sont facilement extensibles. Moi, j'ai eu le cas, là, je suis dans ma boîte. J'ai voulu rajouter de la complétion automatique sur tout ce qui est SH, etc., SSH, etc., pour avoir des différents noms de machines en fonction des clients et tout. J'ai pu l'ajouter à mon ZSH totalement personnalisé en peut-être une demi-heure. Et ça fonctionnait, j'avais la complétion sur tous les noms de machines avec un inventaire. Donc ça, c'était cool. Et je complète ça avec Starship depuis quelques temps, qui est globalement, on va dire, un prompt un peu plus light, écrit en Rust, qui me permet d'avoir des informations contextuelles. Pourquoi j'utilise ça? Moi, j'étais de la partie qui aimait pas avoir des prompts trop complets, au final. J'avais essayé au MyZSH et des choses comme ça, mais j'ai trouvé ça beaucoup, beaucoup trop lourd. Starship est pas trop lourd pour moi, et surtout, il me permet d'avoir des informations qui me semblent importantes. Vu que je travaille dans une société, on a beaucoup de clients. Je suis obligé d'avoir dans mon statut, par exemple, sur quel cluster cube je suis, dans quel contexte cube je suis, pour être sûr d'être dans le bon contexte ou des choses là. Moi, c'est une petite aide visuelle, mine de rien, qui me fait gagner du temps et qui m'évite des commandes, donc de perdre du temps là-dessus. Donc voilà pour tout, c'est pareil, toutes les configs là, hein, pour moi, vous les retrouvez dans mon Ansible, qui est aussi en description si ça vous intéresse. Et si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à venir les poser sur le forum ou sur Twitter ou où vous voulez.
Oui, c'est vrai que là, on parle de beaucoup d'outils, donc on va pas tous les mettre dans les descriptions. Donc venez sur le forum, venez discuter avec nous.
Et je passe deux secondes sur du coup les deux derniers, ASDF et DIRANV. ASDF qui me permet de gérer en fait l'installation de paquets, on va dire DevOps. J'étends un peu, dans le sens où c'est souvent des petits binaires Go, des choses comme ça, et ça me permet de les installer avec et surtout de gérer leur version simplement. Là où un APT va avoir un gros défaut, c'est que si jamais je veux une version précise, je dois devoir supprimer le paquet, le remettre, etc. Là, SDF, il va pouvoir me gérer ça beaucoup de manière beaucoup plus flexible, et aussi as code, donc avec un point tools version, il va automatiquement charger les bonnes versions, et ça, quand on travaille en équipe, c'est juste un game changer. Et j'en ai parlé rapidement au début, DIRANV qui me permet d'automatiser des actions quand je me déplace dans des dossiers. Donc quand vous déplacez dans un dossier, DIRANV va exécuter en fait un fichier, ce qui est plutôt propre et permet d'automatiser plein de petites choses au quotidien, et ce qui vous fait gagner beaucoup de temps et vous évite d'oublier d'exporter des variables, ou mieux, oublier d'unset des variables, parce qu'on pense toujours à exporter ces variables et ces tokens, on pense moins à les unset, et ça c'est fait avec DIRANV. Donc je vous le conseille fortement là aussi.
Eh ben merci, je vais prendre la suite. J'utilise aussi ASDF, je n'utilise pas encore DIRANV, il faut que j'y passe. ASDF, de manière globale, en fait, tous les outils de ce type-là qui vous permettent d'avoir des environnements virtuels, sans que ce soit des machines virtuelles, pour vos outils, c'est vachement bien, parce que quand tu navigues entre plein de projets, t'es pas sûr en fait que la version des projets soit la même. Notamment, nous, on fait beaucoup d'Ansible, et ben on utilise pipenv pour justement télécharger nos paquets pip, et puis pour se retrouver dans un environnement virtuel avec la bonne version de Python, la bonne version d'Ansible, etc., etc. Puisque je suis sur Ansible, je vais te parler de Ansible Ara. Ansible Ara, c'est une manière d'avoir des logs Ansible beaucoup plus digestes que les logs indigestes d'Ansible, soyons honnêtes. Les logs d'Ansible, quand ça plante, c'est impossible de savoir pourquoi. Avec Ara, tu vas pouvoir naviguer dans ton contexte et avoir la sortie claire de ce que tu vas faire. J'ai longtemps été sous VI. Je suis un vieux de la vieille, donc j'ai commencé sous VI et sous Vim. J'ai abandonné ça il y a quelques années pour VS Codeium, qui est la version complètement libre de VS Code, puisque VS Code, si tu ne le sais pas et si tu l'utilises, il y a de la télémétrie et il y a une licence associée au binaire Les sources sont libres, mais le binaire ne l'est pas. VS Codium, c'est un repackage et une recompilation des sources libres et sans la télémétrie Microsoft. J'ai plein d'extensions, mais notamment il y en a une que je vais te donner, c'est GitGraph. GitGraph, ça va te permettre de voir ton arbre de commit, et c'est super important de voir son arbre de commit pour pouvoir justement ne pas faire d'erreur en naviguant entre les branches et les autres. Comme René, j'utilise Git en ligne de commande, et c'est pour ça que j'utilise OhMyZSH. Parce que il y a plein de, comme l'a dit Damir, ZSH, il y a plein de raccourcis au MyZSH me permettent de l'améliorer. Moi, j'ai jamais trouvé ça lourd, mais c'est parce que j'ai peut-être une grosse machine, je ne sais pas. J'utilise encore Teammate, qui est, alors Teammate, oui. T'as parlé de Teamux tout à l'heure, Damir, mais Teammate, en fait, c'est une implémentation de Teamux qui permet de faire du pair programming à distance avec d'autres personnes, qui est vachement pratique, parce que du coup tu tapes teammate dans ton terminal, ça te donne une ligne de commande SSH, tu la donnes à ton collègue et ton collègue va se retrouver automatiquement sur ta machine sans aucun problème. Enfin, je veux dire, ça marche super bien. Et j'utilise HTOP à la place de TOP et je pourrais jamais m'en passer parce que je trouve trop bien. HTOP, c'est vraiment super. Et j'ai des .files aux petits oignons. Alors je te mets le lien aussi en description. J'ai plein de petits trucs dedans. Je crois que j'ai fait le tour. Bon, il y a plein de trucs que j'ai pas abordé, mais c'est parce que ça sert pas à grand chose. Mais déjà avec ça et puis tout ce qu'a dit René et Damir, tu t'en sortiras. Et puis en plus Nicolas va en rajouter une couche.
Et voilà, dont une partie un peu propriétaire, mais bon. Du coup, j'utilise SDF aussi pour tous mes interpréteurs Python, Node.js, etc., comme vous. J'utilise ZSH, OhMyZSH, Starship, comme vous, en local. Par contre, je me connecte sur tellement de serveurs que je reste en bash pour rester suffisamment productif. J'ai été un gros utilisateur de VI, Vim, NeoVim, mais je suis en train de migrer sur PyCharm, donc c'est l'environnement de développement dédié à Python, développé par, ça y est, j'ai perdu le nom, JetBrains.
JetBrains.
Qui fait plein d'outils pour les développeurs, et je dois dire que je suis malheureusement très séduit, donc je pense que je vais être obligé d'acheter la licence bien bien chère. J'utilise Git en ligne de commande, par contre, dès l'instant où j'ai besoin de visualiser les petits trucs en ASCII art me suffisent plus trop, donc j'utilise Fork, dont on a déjà parlé une fois dans les outils de l'épisode. Et comme encore une fois je suis souvent dans le train et des fois sans connexion internet, quand je pense à mettre à jour avant de partir, j'utilise Dash. C'est un produit développé par la société Capelli, dont il existe une alternative open source qui s'appelle Zeal. Vous aurez les liens des deux outils dans les liens de l'épisode. Ça vous permet d'avoir de la doc hors ligne, notamment pour de l'Ansible, du SalStack, du Terraform, etc. Et dans les trucs indispensables pour moi, j'ai Wireshark qui me permet d'analyser des captures sur ma machine, donc en mode visuel. Je fais ma capture avec Wireshark ou TCP Dump sur mon serveur, mais je visualise avec Wireshark sur ma machine. Et en hyperviseur, j'ai ce que je peux avoir au moment où j'en ai besoin, donc du VirtualBox, du VMware. Et comme je suis sur M1 en ce moment, j'ai plus grand-chose qui fonctionne, donc je suis revenu sur du Docker qui fonctionne pas si mal que ça.
Merci Nicolas, et tu l'auras compris, si tu nous écoutes, on n'a pas parlé de tous les outils classiques type Docker, Terraform, etc., parce que c'était pas l'objectif. Et ça dépend vraiment. Là, c'est vraiment des outils qui peuvent être utilisés par tout le monde. Et on a une dernière section. Je l'ai appelée autre, mais en fait, on pourrait l'appeler sécurité et mot de passe. C'est René qui va commencer.
Oui. Alors,
qu'est-ce que tu utilises justement pour gérer tes mots de passe?
Moi, j'utilise KeePassXE. Alors après, j'avais pas dit forcément que j'avais un Nextcloud, mais voilà, j'utilise KeePassXE et puis je synchronise avec sur un Nextcloud. Et pour le moment, ça me suffit. Autrefois, j'utilisais d'autres choses quand on avait des mots de passe en équipe, mais pour l'instant, voilà, à titre personnel, ça me suffit pour le moment.
Nicolas, tu veux bien prendre la suite?
Oui, alors bah, comme j'aime bien tous les trucs propriétaires bien chers, j'utilise OnePassword de chez AgileBytes. Alors c'est payant, c'est propriétaire, mais pour moi c'est quand même la référence. Ça fait très longtemps que je l'ai, et c'est aussi pour ça que j'y suis toujours, c'est que j'ai pas trop envie de migrer non plus. Je l'utilise à la fois en personnel, donc j'ai je sais plus combien de mots de passe, tous différents dans un seul endroit. J'ai pris l'abonnement familial, comme ça, quand je partage des mots de passe en famille, bah, au moins je suis pas embêté. C'est la solution d'entreprise que l'on a, et c'est la solution d'entreprise chez un de mes clients. Donc j'ai trois OnePassword différents qui sont au même endroit. Je peux copier des mots de passe d'un coffre-fort à un autre, les déplacer quand je me suis trompé, etc. Il y a une fonctionnalité très pratique qui est clic droit, copier le lien pour envoyer un lien à quelqu'un d'autre. Et on a le choix, c'est soit il est obligé d'avoir OnePassword et d'avoir accès au mot de passe pour pouvoir le voir, soit on l'envoie de manière sécurisée à quelqu'un, à ma compagne, quand j'ai besoin de lui partager un mot de passe alors qu'elle n'a pas OnePassword. Et dernier truc, c'est accessible en ligne de commande. Donc je l'utilise pour déverrouiller mes serveurs Vault, donc le Vault d'HashiCorp, où il faut rentrer une unsealed key avec un token d'authentification. Et en fait, j'ai fait un script Python qui va récupérer les secrets dans OnePassword, se connecte en SSH et déverrouille mes Vault. Donc ce qui avant me prenait 10 minutes par cluster, maintenant ça me prend une seconde pour lancer le script et je vais me faire un café. Quand je reviens, c'est tout déverrouillé. Voilà.
Et Damir, parle-nous de ta super solution.
Moi, je l'ai déjà cité plusieurs fois, j'utilise Pass, qui est un gestionnaire de mots de passe assez simple qui se repose sur PGP, qui est par défaut en ligne de commande avec un client qui se repose sur du Git pour faire le versionning. Bien sûr, c'est chiffré, donc il n'y a pas de souci. Ça permet de rollback assez facilement avec quelque chose qu'on connaît bien. Il y a plein de clients graphiques qui existent, il y a plein d'extensions qui existent. C'est super flexible. C'est un peu, moi j'aime bien les outils comme NeoVim, comme Pass, comme plein de choses qui sont assez basiques de base, mais qui sont ultra customisables et surtout qui ont plein de choses qu'on peut activer ou pas en fonction de nos besoins. Et ce qui est assez cool, comme je disais, c'est que typiquement il est intégré à Gnome, ce qui fait que quand je fais la touche super et que j'ai ma barre de recherche, je peux directement taper en fait une recherche dans mon gestionnaire de mots de passe. Donc j'ai pas forcément besoin de connaître le chemin parfait. Et voilà, je vous le conseille. Pareil, j'avais écrit un article dessus pour expliquer comment je m'en sers avec la YubiKey, etc. Donc je vais pas m'étendre et je vous mettrai l'article en commentaire.
Eh ben je te remercie. Et nous, on utilise Bitwarden chez nous. Pour l'instant en mode SaaS, mais l'équipe grandit. Et en plus, on vient de se faire notre serveur des outils, on va dire. Et on va passer à Vaultwarden, la version, le clone, écrit en Rust, si je ne me trompe pas, de Bitwarden, et qui est 100% compatible avec tous les clients. C'est très bien, on en est super content. Ça fait plein de trucs, notamment le partage des mots de passe, comme vous l'avez dit, l'hébergement des mots de passe. L'hébergement des infos de carte bleue aussi, c'est intéressant. Ce qui nous permet de la partager, je l'ai pas encore fait, mais on va peut-être pouvoir partager la carte bleue avec notamment nos assistantes. Et comme en plus, ça permet de partager sans forcément que la personne ait accès au mot de passe en clair, ça peut être intéressant. Bon, vous allez me dire, il y a peut-être potentiellement de récupérer l'info, mais... En tout cas, pour les non-tech, ça reste difficile. On a longtemps utilisé aussi KeePass XC comme René avec Nextcloud, mais honnêtement, pour le partage des mots de passe avec plusieurs groupes et des freelances, c'est pas très pratique. Donc, on est passé sur cette solution-là, qui marche plutôt très bien. Et on en est super satisfait puisqu'on est maintenant 7, 8, 9, 10, on est 10 sur le Bitwarden qu'on paye pour l'instant. Ça nous permet de donner des sous aussi à l'éditeur, puisque c'est intéressant de donner des sous aux éditeurs de logiciels libres. On en a parlé.
Je serais très intéressé par ton retour sur Bitwarden en auto-hébergé.
Eh ben, dès qu'on aura commencé, je te ferai un retour, puisqu'on a commencé à auto-héberger pas mal de choses, pas mal d'outils dont j'ai pas parlé ici parce qu'il y en a beaucoup. Et notamment des futurs outils qui vont arriver pour les vidéos. Vous allez voir si j'arrive à le faire cette année. Il y aura YouTube et autres. Vous saurez. Oui.
Et je vais rajouter Nicolas, deux trucs.
Allez, vas-y.
Par rapport à Pass dont on parlait d'Amir, moi je l'ai utilisé dans un contexte d'équipe. On en avait déjà parlé lors d'un épisode précédent que vous pouvez réécouter, c'est comment partager vos secrets. Vous pourrez le retrouver en lien ici. Et aussi très important, c'est quand vous avez un gestionnaire de mots de passe, regardez comment vous pouvez l'utiliser pour automatiser. Par exemple, je parlais de OnePassword, j'ai des plugins dans tous mes navigateurs, ce qui me permet de, avec une seule touche, rentrer les credentials pour un site internet, et comme il y a l'URL qui sert à savoir si, enfin, quel est le site internet sur lequel on veut mettre le mot de passe, c'est aussi une forme de sécurité, parce que s'il y a de l'usurpation d'URL, le mot de passe ne pourra pas être proposé puisque l'URL va être différente. Donc c'est une petite sécurité supplémentaire qui est assez intéressante.
Eh ben merci. Ça fait déjà 1h30 qu'on discute, donc tu l'auras compris, il y a beaucoup de choses à dire, donc je t'encourage, toi qui nous écoutes, à venir en parler sur le forum. La communauté des compagnons, c'est basé sur un forum. Viens partager ta stack, viens nous donner tes tips, tes super outils, les outils qui te changent la vie au quotidien. Il y aura un sujet ouvert, comme à chaque fois, lié à cet épisode de podcast, et viens nous en parler, ça nous fera très plaisir. Pour t'inscrire, c'est le premier lien en description. Eh ben messieurs, je vous laisse le mot de la fin, et c'est Nicolas qui va commencer, qui va faire passer la parole.
Oui, alors en conclusion, je dirais, on a parlé de plein d'outils, de plein de trucs totalement différents, dont certains propriétaires pour ma part, et je voudrais vous rappeler un truc, c'est que c'est des choses qui sont assez personnelles, c'est pas des jugements de valeur de dire il y a tel truc qui est mieux, moins bien, etc. Donc quand vous allez venir commenter, restez bienveillants et respectueux des uns envers les autres. Je vais te laisser la parole, Damien.
Je suis totalement d'accord avec ce que tu dis, et c'est important. Et je dirais une autre chose, je pense qu'un mot qui résume bien ce qu'on a dit, c'est investissement. N'ayez pas peur d'investir sur les choses, que ce soit le matériel, ça, c'est quelque chose de plus durable et de meilleure qualité. Et aussi, j'ai envie de dire, sur les outils. Moi, je sais que j'ai pris du temps à comprendre Zedig, à l'installer. J'ai fait pareil avec NeoVim, je fais pareil avec plein de choses. Et en plus, j'essaie de vous partager ça sur les articles de blog pour vous aider. Ou là, on essaie, en tout cas en général, de vous partager tout ça. Mais prenez des fois le temps d'investir, de comprendre comment les outils marchent et de les configurer pour vous. Ça rend souvent les choses plus agréables au quotidien. Et du coup, je passe la parole à René.
Eh ben, que vais-je dire? je trouve que c'est toujours enrichissant un petit peu de voir comment les autres travaillent et ce qu'ils utilisent. Par exemple, là, moi, je sais que il y a quelques outils qui m'ont interpellé et dont je vais certainement aller jeter un petit coup d'œil. Je rejoins complètement Damir sur le fait d'investir dans l'utilisation des outils. Aujourd'hui, moi, je passe 90% de mon temps, je pense, dans NeoVim. J'ai appris à pas mal en servir et à être assez efficace avec. Et comme c'est un outil qui me fait gagner du temps, etc., c'est aussi un outil que je sponsorise via GitHub. Je vous encourage à faire de même pour les outils que vous aimez vraiment. Et je crois que ce sera mon mot de la fin.
Merci d'avoir écouté Radio DevOps. N'oublie pas de noter l'épisode, plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications. Tu peux aussi le partager, ça nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement plus visible. Si tu as envie de discuter du mouvement, alors rejoins-nous dans la communauté des compagnons du DevOps. À bientôt. La balado diffusion des compagnons du DevOps est produite par l'Hydra.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.